Bonsoir. Célébration le 12 février de la journée internationale de lutte contre l'utilisation d'enfants soldats. À cette occasion, l'UNICEF annonce que 50 000 enfants ont été sortis des groupes armés depuis 2002. Cependant, la MONUSCO regrette que des milliers d'enfants continuent d'être enrôlés par les groupes armés dans l'est de la RDC. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec Maître Juvenal Mounoubou Moubi, il est député national et rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il est également ancien chargé des programmes DDR Enfants à la Caritas Goma de 2006 à 2011. Bonsoir Maître Juvenal Mounoubou Moubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Didier Bitaki, il est spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Bonsoir Monsieur Didier Bitaki.
Bonsoir.
Et Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la promotion de l'enfant et de l'élève, Lisabel Lansigle. Bonsoir, monsieur Joseph Godet Kayembe.
Oui, monsieur Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le monde célèbre ce jeudi 12 février la journée de lutte contre l'utilisation des enfants soldats. À cette occasion, les fonds des Nations Unies pour l'enfance appellent le gouvernement congolais et les partenaires financiers à investir des moyens nécessaires pour garantir une réintégration durable de tous les enfants sortis des forces et groupes armés. Dans un communiqué de presse rendu public hier mercredi, l'UNICEF affirme avoir assisté près de 4500 enfants sortis des forces et groupes armés en 2014 au Congo-Kinshasa. Michel Kifin Dangoy pour les détails.
L'UNICEF saisit cette occasion pour faire le bilan des résultats atteints en RDC dans le domaine de la démobilisation, de la prise en charge et de la réintégration des enfants. 4479 d'entre eux ont été sortis des groupes armés, puis pris en charge par l'UNICEF et ses partenaires en 2014. Depuis 2002, plus de 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés ont été assistés, dont 80% au nord et sud Kivu. Pour Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF RDC, la place des enfants n'est pas au sein des forces et groupes armés, mais dans leur famille et à l'école. L'UNICEF félicite en outre la République démocratique du Congo pour les initiatives prises pour mettre fin à l'enrôlement d'enfants. Il appelle donc le gouvernement à se doter de moyens financiers nécessaires pour traduire ses ambitions en réalisation et à lutter contre l'impunité des auteurs des violations graves des droits des enfants. L'UNICEF encourage enfin les partenaires financiers à poursuivre leur soutien au programme de démobilisation et de réintégration durable. En effet, ajoute-t-il, le manque de ressources financières actuelles menace la réintégration durable de ces enfants.
Notez que le chef de la MONUSCO a condamné l'utilisation des enfants soldats par les groupes armés en RDC. Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, Martin Kobler a par ailleurs salué les efforts du gouvernement de la RDC, dont l'adoption du plan d'action en octobre 2012 est le signal fort de son engagement contre le recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits armés, a-t-il conclu. Maître Juvenal Mounoubou Moubi, je rappelle que vous êtes député national et rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Vous êtes également ancien chargé des programmes DDR Enfants à la Caritas Goma de 2006 à 2011. Comment vous analysez cette situation? D'une part, l'UNICEF annonce que 50 000 enfants sont sortis des groupes armés depuis 2002. Et de l'autre, la MONUSCO déplore l'enrôlement des milliers d'enfants soldats dans l'est du pays de la RDC.
Merci beaucoup, Monsieur Guy, pour l'invitation. Je voudrais saluer Monsieur Joseph Godet et Didier Bitaki qui interviennent également dans cette émission. Je voudrais ici tout d'abord condamner ces phénomènes. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas garantir un bel avenir de nos nations ou du monde lorsque ces enfants sont toujours des otages des forces et groupes armés. C'est des personnes qui n'ont pas la chance de faire les jeux comme les autres enfants, de jouer. C'est des personnes qui sont privées pour un temps de cette possibilité de s'épanouir. Donc il faut condamner cela et je crois qu'il y a lieu de saluer les efforts de l'UNICEF, les efforts de la communauté internationale, la MONUSCO aussi, intervient ici parce qu'il y a ce qu'on appelle la section des protections de l'enfance.
Mais c'est que les efforts du gouvernement.
Alors, ce que je voudrais dire, c'est justement ça. La communauté internationale peut intervenir. Elle le fait. Elle le fait déjà bien. Mais il faut un engagement fort du gouvernement. Et c'est là où réside souvent l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que lorsque on fait le bilan, depuis que la RDC a commencé avec les activités des DDR, on voit l'action de la CONADER, l'action de l'unité d'exécution du PNDDR, on voit les résultats en fait chiffrés. Eh bien, il y a beaucoup de failles également. Et parmi les failles, je voudrais tout d'abord noter ici que la gestion des fonds alloués à la réinsertion n'a toujours pas été une gestion satisfaisante. C'est pas moi qui l'ai dit pour la première fois, il y a eu plusieurs rapports et même des rapports d'évaluation des partenaires. Souvenez-vous de la manière dont un programme qu'on a appelé MDRP en 2004 a été géré, les programmes multi-pays pour la réinsertion. Donc on doit se poser des questions, est-ce que la gestion elle est toujours saine lorsque cette gestion est effectuée par des structures de l'État telles que CONADER, unité d'exécution du PNDDR. Il y a d'autres questions, les agences qui sont sur terrain. Est-ce que c'est souvent des agences qui ont une effectivité réelle ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des activités toujours faciles. Il faut aller parfois au contact des groupes armés. Il faut tenir des séances de sensibilisation. Je parle ici de l'expérience que j'ai de la Caritas. Nous avons eu parfois à rencontrer ces personnes qui utilisent les enfants, à leur parler des droits des enfants. À leur dire de ne pas enrôler les enfants. Pourquoi ? Parce que c'est un crime de guerre. La conscription, l'utilisation des enfants soldats, c'est un crime de guerre. Nous avions évoqué des cas dont la Cour pénale internationale venait de se saisir. Donc, est-ce que les agences d'exécution sont efficaces ? Il y a aussi une autre question, la base des données. Existe-t-il actuellement une bonne base de données ? Même si on fait une estimation de 50 000 enfants sortis des forces et groupes armés. Et le grand défi, c'est la réinsertion. Le suivi, parce que remettre un enfant à sa famille, ce n'est pas suffisant. Vous avez sorti un enfant d'un groupe armé, soit c'est le commandant qui l'a libéré, soit c'est l'enfant lui-même qui a fui les mauvaises conditions là-bas, parce qu'ils sont utilisés, ils sont exploités, ils font des travaux qui dépassent leur âge. Ils courent beaucoup de risques, et d'autres viennent même étant malades. Est-ce que il y a une base de données qui indique qui possède toutes les données sur les enfants, des données détaillées? C'est vrai qu'il existe des fiches. Est-ce que toutes ces fiches sont toujours remplies de la manière qu'il faut? Les filles. Est-ce que les filles sortent des forces de groupe armé? Parce qu'il a été indiqué, plusieurs experts, plusieurs analystes doutent effectivement de la sortie. Beaucoup de filles ne sortent pas des groupes armés. Les accords de paix qui sont signés, hein, cette volatilité parce que presque chaque accord prévoit en fait les volets de démobilisation des enfants. Est-ce que si on fait une évaluation de tous les accords qui ont été signés, à part les partages des postes, l'amnistie, est-ce que on a pu réaliser aussi la sortie des enfants des forces de groupes armés? Ce sont des questions qu'il faut se poser.
Voilà, en 2003, on a institué un programme DDR pour la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats dans la vie civile. Et en juin 2006, la commission gouvernementale qui était chargée de ce programme avait annoncé avoir démobilisé environ 19 000 enfants. Donc, en 3 ans, il y avait au moins 19 000 enfants qui étaient démobilisés. Cela veut dire que si ce rythme avait été maintenu, on aurait aujourd'hui près de 80 000 enfants démobilisés. À votre avis, pourquoi cet élan n'a pas été maintenu?
En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs que je venais tantôt de soulever, donc des insuffisances.
Les fonds alloués à la réinsertion.
La mauvaise gestion, mauvaise coordination sur le terrain.
N'est pas existé sur le terrain.
Oui, il y a d'autres facteurs.
Les banques de données qui ne sont pas fiables.
Tout à fait, il y a d'autres facteurs comme des guerres à répétition. Vous savez que c'est un travail, un éternel recommencement. C'est finalement une sorte de mythe décisif. Parce que d'expérience, je vous parle d'expérience, j'ai été un encadreur des enfants, j'étais le superviseur des encadreurs des enfants à la Caritas Goma pendant 6 ans. Il y a des enfants qui ont été enrôlés, recrutés 2-3 fois. Il y a des enfants qui un enfant a été dans les FDLR, il a été dans les Maïmaï, dans l'ex-SNDP, ainsi de suite. Donc, plus les conflits continue, plus les groupes armés continuent à piller à l'Est. Nous pensons que des opportunités comme l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, je crois il fallait partir de ça pour mettre fin définitivement à tous ces groupes armés, au lieu de faire un travail, toujours un recommencement, un surplace.
Merci Didier Bitaki. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international et expert en question de groupes armés. Comment vous analysez ces faibles taux d'enfants sortis des groupes armés en RDC? Allô, Didier Bitaki? Allô? Voilà. Apparemment, nous l'avons perdu. On va essayer de le rappeler. Joseph Godet Kayembe, président du conseil d'administration de la Ligue pour la zone Afrique pour la promotion de l'enfant et de l'élève, l'ISADEL en sigle. Comment vous, vous analysez cette situation?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois que les détails qui ont été faits par Maître Juvenal sont éloquents. Je crois que le grand problème dans ce pays, comme il l'a dit, il l'a bien souligné, c'est le fait qu'on travaille de manière hasardeuse. D'abord, il a souligné que...
C'est-à-dire quoi, travailler de manière hasardeuse?
Il n'y a pas un système mis en place pour pouvoir documenter le cas des enfants qui sont recrutés, des enfants qui sont démobilisés. Il a dit clairement qu'il n'y a pas la base de données. La base de données n'existe pas. Et on le fait. Et ensuite, on ne parle pas des dispositions pour la réinsertion, la vraie réinsertion des enfants. Il dit clairement que les enfants qui sont démobilisés, on les remet entre les mains des parents. Ce n'est pas suffisant. Et aussi, ceux qui sont au niveau de l'armée, et la plupart qui constatent que leurs amis qui ont quitté l'armée, ils sont dépourvus à la cité et ils sont devenus malheureux et ils ne sont pas pris en charge, ils n'ont pas été réinsérés économiquement. Parfois, ils refusent de pouvoir quitter le lieu. Et c'est pourquoi la Litadelle toujours pense que tous ces problèmes, on ne sait pas regarder leur cause. Et je pense que si l'État congolais pouvait prendre ses responsabilités en rendant la situation, l'éducation accessible à tous ces enfants, je crois que ceux qui recrutent des enfants n'auraient pas l'occasion de les recruter. Et la situation des enfants, les enfants pouvaient vivre de leur enfance. Et je crois que nous croyons que c'est cette faiblesse qui fait que la plupart d'enfants qui sont recrutés ne veulent pas quitter.
Voilà, à qui peut-on attribuer cet échec, aux groupes armés qui, des fois, dissuadent ces enfants à la démobilisation ou à la faiblesse du gouvernement, comme vous venez de relever?
La faiblesse relève du gouvernement. La faiblesse relève du gouvernement. Parce qu'il faut mettre en place le mécanisme de protection des enfants.
Mais il faut aussi reconnaître que les groupes armés ne facilitent pas la tâche au gouvernement.
Non,
les groupes armés qui n'encouragent pas ces enfants à pouvoir quitter.
Je suis convaincu que s'il y a des groupes armés qui arrivent à Kinshasa, il y aura beaucoup d'enfants qui vont entrer dans cette armée. Parce que vous savez que les enfants Kuluna qui existent, tous ces enfants sont prédisposés à pouvoir entrer dans tous ces mouvements. Parce qu'il n'y a pas de dispositions sur place, mises en place par le pouvoir public, pour occuper les enfants. Pour que les enfants vivent de leur enfance. Et on ne donne pas l'opportunité à tous ces enfants d'aspirer à la bonne vie. On croit que c'est peut-être dans l'armée qu'ils peuvent s'y retrouver. Voilà pourquoi cette situation perdure.
Monsieur Joseph Godet Kayembe, parmi ces enfants, il y en a qui sont forcés, n'est-ce pas, à faire partie de ces différents groupes armés, comme il y en a aussi qui sont recrutés volontairement. Et vous avez comme vocation au sein de l'ISADEL la promotion de l'enfant et de l'élève. Et qu'est-ce qui peut pousser un enfant à aller adhérer volontairement à un groupe armé?
Vous savez que ceux qui connaissent nos enfants comme difficultés. Dans la vie, les enfants congolais connaissent beaucoup de difficultés. D'abord, la plupart d'enfants, il y a plus de 7 millions d'enfants, qui ne vont pas à l'école. C'est déjà très grave. Et tous ces enfants qui ne vont pas à l'école, vous savez comment ils vivent. Si on leur présente l'opportunité de se retrouver à la fin avec 10 000 francs, 5 000 francs, je vois que ces enfants peuvent facilement être suivis et partir. Je vois que le grand problème, ce n'est pas le sécurité des enfants. Le problème, c'est les pouvoirs publics qui ne sécurisent pas les enfants en mettant en application les différentes dispositions qui garantissent les droits de l'enfant.
Voilà, le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans des conflits armés, est-ce que les groupes armés ont été sensibilisés par rapport au contenu de ces textes?
Mais je crois que ce protocole ne concerne pas les groupes armés. Généralement, ce protocole concerne l'État qui le signe. C'est l'État qui signe ce protocole et qui est censé pouvoir garantir les droits de l'enfant par rapport à ça.
Mais vous pensez que, comme les groupes armés ont aussi une part des responsabilités dans cette question, ils ne doivent pas être sensibilisés par rapport à ces textes parce que ça relève les droits des enfants et...
Mais vous allez les sensibiliser comment? Parce que vous n'arrivez pas là où ils sont. Je crois qu'il appartient au pouvoir public, de manière préventive, de pouvoir sécuriser les enfants en mettant un mécanisme pouvant permettre à tous ces enfants de refuser de se faire engager. Puisque quand l'enfant refuse, on l'étudie ou pas, de refuser d'abord de se faire engager en relais dans les, et de pouvoir leur donner d'autres opportunités pour pouvoir s'épanouir.
Il faut rappeler que le phénomène enfant-soldat est un phénomène vieux. L'histoire renseigne que ces phénomènes existaient déjà depuis le Moyen-Âge. Mmh. Et à votre avis, qu'est-ce qui pousse les groupes armés, qu'est-ce qui pousse les armées classiques à recourir au service des enfants?
Oui, parce que les enfants sont naïfs, les enfants prennent le risque, et ils ne mesurent pas le risque qu'ils prennent, et c'est pourquoi ils sont utilisés. Et souvent, on espère que les enfants, quand ils sont dans les mouvements, ils ne sont pas soupçonnés. Ils peuvent facilement...
Et ils sont utilisés comme chair à canon?
Exactement. Ils ne sont pas soupçonnés, ils peuvent être utilisés comme chair à canon parce qu'ils ne mesurent pas le risque. Et on a besoin de tous ces jeunes gens pour ça.
Alors, est-ce que la LISAD accompagne le gouvernement dans ses initiatives tendant à mettre fin à l'enrôlement des enfants soldats, même si, vous l'avez dit, les initiatives ne sont pas efficaces?
Notre démarche a été toujours rationnelle. Nous disons toujours à l'État que l'unique façon de pouvoir régler le problème et la stabiliser les enfants, le protéger, c'est de pouvoir rendre l'enseignement gratuit et obligatoire. Quand l'enseignement est gratuit et obligatoire et que ces enfants, le matin, ils sont préoccupés par les études, tous ces enfants bénéficieront d'une protection maximale. Mais tant que l'État ne ferme les oreilles, ne bouche les oreilles, ne prend pas des dispositions pour pouvoir rendre cette question principale et fondamentale essentielle, je pense que nous travaillons pour la perte.
Rendre l'enseignement gratuit et obligatoire et accorder un salaire consistant aux parents?
Je crois que le salaire peut venir, mais d'abord l'enseignement doit être rendu gratuit et obligatoire. Et quand il est rendu gratuit et obligatoire, ça permettra à tous ces enfants d'avoir des occupations. Quand l'enfant est préoccupé par la formation, il ne peut pas accepter de pouvoir être engagé dans des histoires qui n'ont pas l'avenir.
Merci. Lydia Bitaki, je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Vous êtes en ligne?
Je suis en ligne.
Voilà. Comment vous analysez ces faibles taux d'enfants sortis des groupes armés ici en RDC?
Écoutez, la question des enfants soldats est une question très complexe parce qu'elle a des sources également complexes. Quand vous considérez cette question, vous trouverez que c'est depuis un certain temps, depuis 2002, que des processus ont été mis en place pour vider cette question des enfants soldats. Mais pourquoi est-ce qu'elle devient de plus en plus récurrente? C'est simplement parce qu'il y a certaines responsabilités qui ne sont pas assez bien assumées, qui font qu'on retrouve toujours des enfants dans les rangs des forces et groupes armés. Je donne un exemple des causes qui sont à la base, par exemple, de la présence des enfants soldats ou des enfants qui accompagnent les groupes armés dans la pousse. C'est le cas, par exemple, d'actuels groupes armés qui écument l'Est du pays. Là, il y a eu des processus qui ont été mis en place qui visaient d'abord la séparation des combattants et des non-combattants. Donc, les combattants et leurs associés, il fallait les séparer. Mais est-ce que ces processus sont arrivés à leur terme? Non. Des deux. Quand on a tenté de le séparer, par exemple, à travers la CONADER, est-ce qu'on a distingué l'enfant soldat de l'adulte? Actuellement, il y a ceux qui ont intégré l'armée à travers le brassage, parce que simplement ils avaient déjà atteint 15 à 16 ans, et pourtant ils ont été enrôlés par des forces et groupes armés à l'âge peut-être de 12 ans, ils se retrouvent au sein des FRDC. Donc, cela a créé une sorte d'opportunité pour ces enfants-là, malheureusement, mal encadrés, qui n'ont pas suivi la moindre formation, et peut-être aussi qui ont perdu le leur pendant la guerre, et qui ne trouvaient un seul refuge que dans les groupes armés où ils devaient peut-être trouver un moyen vital permettant de survivre. Donc, dans ces conditions, étant donné que le gouvernement, en voulant mettre des programmes en place qui visent le retrait des enfants et des enfants associés aux groupes armés, ces programmes ne sont pas exécutés tels que le plan est élaboré souvent, et même si on donne des conseils, souvent ça a toujours fait l'objet de discussions. Je pense que c'est cela l'origine réelle de la présence des enfants soldats. Donc c'est une question de responsabilité de l'État congolais vis-à-vis de ses propres enfants. Parce qu'actuellement, si vous suivez bien, le gouvernement congolais n'a jamais mis des mécanismes en place qui visent la protection spécifique des enfants, y compris à Kinshasa. S'il y avait peut-être circulation suffisante d'armes ici, sans contrôle, je pense qu'on aurait plus d'enfants soldats à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Pourquoi ? Parce que les enfants ne sont pas protégés ici même. Alors qu'adviendra-t-il pour ceux qui sont à l'intérieur, où il y a des guerres, où il y a des minerais, où les enfants se font eux-mêmes vivre parce que les parents ont été massacrés, d'autres parce que les parents sont pauvres, d'autres parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller à l'école. Je pense que cette question doit être traitée dans une dimension globale, tout en analysant spécifiquement chacun des aspects qui fait à ce que ces enfants se retrouvent dans les groupes armés. Et dans ces conditions-là, je pense que mon confrère Maître Mounoubo, qui fait de cette question une priorité au niveau de l'Assemblée nationale, pourra peut-être chercher à proposer les pistes de solutions qui conviennent pour que d'abord des mesures de protection des enfants soient prises, et ensuite pour qu'on essaye un peu de savoir est-ce que nous avons trouvé des solutions par rapport aux sources de recrutement, par rapport à ceux qui utilisent les enfants et par rapport à l'État congolais, parce qu'il est le premier responsable. Voilà.
Voilà, il était dit que vous, ancien belligérant, parce que je rappelle que vous êtes ancien membre des groupes armés, et vous étiez réticent quand il était question de fournir des informations sur les effectifs de vos combattants, et vous affirmiez même n'être pas disposé d'enfants soldats dans vos branches armées. Et vous n'avez pas, par ces faits, contribué à l'échec de ce processus DDR.
Écoutez, à ce stade-là, je pense qu'il y a une certaine confusion. Parce que c'est lui qui définit le processus, ce ne sont pas les groupes armés, c'est l'État et leurs partenaires, et ses partenaires. Ce ne sont pas les groupes armés, de deux.
Mais à partir
quand
du moment
on a élaboré la cartographie des groupes armés.
Didier Mitaki ?
Oui.
Mais à partir du moment où vous qui êtes partenaire, vous ne donnez pas les nombres fiables, n'est-ce pas ? Et vous ne pensez pas que aussi vous contribuez à l'échec de ces processus ?
C'est là qu'il faut passer par un distinguo entre ce que vous appelez enfants soldats et enfants associés aux combattants. C'est par exemple le cas de ce qui se passe actuellement dans les massifs Sirutiro et Walikale. Là, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, y compris même leurs membres de famille, qui ne peuvent plus survivre eux-mêmes et qui ont trouvé le seul moyen de réfugier que aux côtés des groupes armés, mais qui ne sont pas forcément des enfants armés ou des enfants soldats. Il y a également ceux qui se font recruter volontairement parmi ces enfants-là. Alors, si on vous demande de produire la liste ou les nombres exacts de ces enfants, êtes-vous à me dire, même si vous êtes magistrat, je ne pense pas. Donc, c'est dans ces conditions-là que on demande souvent. Moi, j'ai eu à discuter plusieurs fois avec les autorités chargées de cette question d'enfants soldats, où j'ai fourni les éléments nécessaires. Mais, écoutez, on a eu a assisté à la nomination d'une haute personnalité représentante du chef de l'État qui devait se ressourcer auprès de ceux qui connaissent la question, mais qui malheureusement suit par contre les procès judiciaires pénis contre les cas de violences sexuelles, mais jamais elle a fait allusion à la question des enfants soldats, sa mission d'abord. Est-ce que les groupes armés l'empêchent de l'exécuter sur le terrain? C'est parce qu'il n'y a pas maîtrise de la question dont on est chargé pour apporter des solutions adéquates. Donc ça ne relève pas de la responsabilité des groupes concernés, mais plutôt de ceux qui planifient le programme.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, nous allons prendre pour vous cette question qui vient d'Eloga. Oui, je disais que nous allons prendre pour vous cette question qui vient d'Eloga.
Blaise Osongo, à Eloga. La problématique d'enfants soldats se posera toujours tant que des auteurs bénéficient des facilités du pouvoir en place et que certaines parties du pays échappent encore au contrôle de l'autorité publique. La restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, une justice juste et une bonne politique d'encadrement des jeunes permettent de résoudre l'équation.
Maître Juvenal Mounoubou-Moubi.
Je suis d'accord avec M. Blaise Osongo à 100%. Il a raison. Pourquoi ? Parce que on ne doit pas continuer à accorder des facilités à ces seigneurs des guerres qui enrôlent les enfants. Et ici, je note que les sanctions n'ont pas été prononcées contre les auteurs d'enrôlement des enfants. S'il y a eu des signaux forts, les signaux nous sont venus de l'extérieur, de la Cour pénale internationale. Donc déjà, à ce niveau, ici, il y a une faille qu'il faut noter au cours de cette émission. Et puis, l'autorité de l'État, cette autorité doit être rétablie à l'est du Congo. Et ça devrait déjà l'être depuis longtemps, parce qu'il y a des endroits qui échappent au contrôle de l'État depuis des années. Il y a des personnes qui ne voient pas la présence de la police, il y a des endroits où il n'y a ni armée, ni police, et parfois les gens ont tendance à se constituer eux-mêmes un système de protection. Vous comprenez? Et il y a des personnes qui s'érigent un peu comme des messies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni l'armée, ni la police. Donc il faut restaurer l'autorité de l'État. Et je le disais lorsque je pris la parole pour la première fois au cours de cette émission, que l'accord cadre d'Addis Abeba, la résolution 2098, ce sont deux opportunités. Il faut les utiliser pour faire la paix. Mais la manière dont la question sécuritaire est gérée à l'Est, eh bien, permettez que je vous dise que je suis un peu sceptique. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas une bonne dose, une grande dose de volonté politique. Vous pouvez parler de la question, la manière dont on gère la question FDLR. La manière dont on gère aussi la question des groupes locaux. Vous savez que l'une des façons pour mettre fin aux groupes locaux, et je l'ai dit plusieurs fois, ça serait de concrétiser par exemple les DDR3, les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion. Si le gouvernement présente un programme détaillé des DDR, des réinsertions des enfants soldats, avec des filières de réinsertion, des programmes pour l'orientation professionnelle, l'appui scolaire, l'appui en réinsertion socio-économique, les travaux à haute intensité de main d'œuvre. Il y a moyen aussi d'utiliser les jeunes gens pour l'intérêt de leur communauté à s'y poser. On ouvre un chantier de route, par exemple. Je prends l'exemple la route Goma-Massissi-Walikale, par exemple. Et on dit, nous voulons inviter vous jeunes qui êtes otages des groupes armés, évacuer les groupes armés, venez ici, ceux qui veulent suivre l'école, suivront l'école, nous allons assurer toutes les facilités. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec M. Kayembe, lorsqu'il rappelle l'article 43 de la Constitution, il faut la gratuité de l'enseignement dans les établissements publics au niveau du primaire. Cela est constitutionnel, il faut appliquer. Et il y a des enfants aussi dans les groupes armés dont l'âge est dépassé et ils n'ont peut-être plus la chance de suivre une éducation normale. Eh bien, on peut utiliser cette jeunesse-là dans les travaux, par exemple des routes, pour l'intérêt de la communauté, pour le développement. Mais on nous parle du programme DDR, il y a parfois des rencontres dans les grands hôtels ici à Kinshasa, mais sur terrain, on ne voit rien de concret. Il n'y a pas un plan détaillé qui peut capter toute cette énergie-là qui était dans les groupes armés, utiliser ça positivement pour les besoins du développement. C'est cette vision un peu qui manque et je crois que, je l'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec ses concitoyens, M. Blaise. Je suis d'accord à 100% avec lui et nous lançons donc un appel aux décideurs d'agir.
Monsieur Joseph Godet Kayembe, nous allons prendre pour vous cette question qui vient des Dungu, en province orientale.
Crispin Aïbou, à partir du territoire des Dungu, province orientale. C'est bien beau de célébrer une journée contre l'utilisation d'enfants soldats. Si, au grand mot, grand remède, dit-on, pourquoi ne pas penser plutôt à la ratification d'une mesure contraignante et judiciaire sous l'égide des Nations Unies, de la taille internationale, que quiconque s'adonnerait à cette violation juvénile, quel que soit son statut social, son rang politique et ou armé, son idéologie et les raisons d'usage de cette pratique, soit ipso facto sujet passible d'une poursuite et d'arrêt par la CPI pour décourager tant soit peu ce phénomène d'ampleur irrationnelle.
Monsieur Joseph Godet Kayembe.
Oui. Je crois que l'autre ami a raison. Avant de répondre à cette question, je voudrais aller d'abord dans le même sens que notre ami Maître Juvenal lorsqu'il dit que l'État n'a pas la volonté politique. Regardez d'abord dans notre budget. Quel est l'apport que l'État réserve à l'armée? Quel est l'apport du budget réservé à l'armée? Qu'est-ce que l'apport réservé aux affaires sociales? Quel est l'apport réservé à l'éducation? Et c'est là où on voit la volonté politique. Parce qu'en fait, si on doit parler de la volonté politique de l'État, on doit pouvoir prendre le temps pour examiner le budget qu'il affecte aux secteurs sociaux. Ce sont les secteurs sociaux qui contribuent au changement. Et je voudrais revenir lorsqu'il dit que l'État n'a pas prévu un mécanisme pour permettre aux démobilisés de se choisir des filières où ils peuvent s'épanouir.
C'est-à-dire il y a un déficit d'un programme détaillé,
comme l'a dit un déficit réel. Ça fait que tous ces gens, quand même ils peuvent quitter, ils peuvent toujours se faire recruter de nouveau pour entrer dans le système. Ça pose un problème. Et si nous disons qu'il y a des endroits où l'État n'existe pas, c'est parce qu'en fait, il y a un sens d'irresponsabilité très élevé. Parce que les gens croient que le budget de l'État peut servir à se servir que servir pour le développement du pays. Le Congo n'est pas un grand pays par rapport au Brésil. Le Congo entre trois fois dans le Brésil. Le Brésil, c'est plus de 6 millions de kilomètres carrés. Le Congo, c'est 2 millions de kilomètres carrés. On ne sait pas le gérer. Ça pose un problème réel. Notre ami, ce qu'il pose comme préoccupation est une réalité. Je crois qu'il y a un problème de déficit dans la mise en application des sanctions contre toutes les personnes qui sont en train de recruter des enfants dans les groupes armés. Et aussi, la communauté internationale n'a pas tellement contribué à dissuader les auteurs ou les personnes qui recrutent les enfants de l'armée. Et si la communauté internationale pouvait nous aider, ce ne serait pas seulement donner l'argent pour aller mener des actions sur le terrain. Il devait prévoir un mécanisme pour sanctionner toutes les personnes qui ont fait ces choses avant. Et ça aurait pu amener les autres à s'abstenir davantage.
Et pourtant, Maître Juvenal Mounoubo a affirmé que c'est cette communauté internationale qui semble montrer beaucoup plus de volonté dans la gestion de cette question.
Et moi, tu vois, lui-même, il a dit, il a confirmé que même les chiffres qu'on avance ne sont pas assez exacts parce qu'il n'y a pas de base de données. Et je sais que le Congo, c'est un lieu où il y a beaucoup de programmes. On veut expérimenter les programmes. Vous savez, au Congo, on expérimente sur les programmes. Et aussi, il y a beaucoup de mensonges dans beaucoup de choses que les gens font et de montage. Mais ce que je sais, en tant que patriote, je sais que beaucoup de choses pouvaient terminer s'il y avait une détermination réelle de la communauté internationale sans hypocrisie.
Voilà, vous avez aussi relevé les déficits d'un programme détaillé, un programme DDR détaillé, les déficits d'une volonté politique de la part de l'État et l'inexistence, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État, c'est toute l'étendue en fait, dans certains territoires, certaines localités en RDC. Vous, en tant qu'ONG qui avait comme vocation, n'est-ce pas, la promotion des élèves et de l'enfant, est-ce qu'il existe entre vous et le gouvernement, il passerait une sorte de collaboration.
Et nous collaborons avec le gouvernement.
Collaborez, est-ce que vous arrivez à apporter ce genre de... Quand vous faites ces constats-là, est-ce que vous avez le courage, n'est-ce pas, de les dire au gouvernement?
La Lisadel est membre de Comcon. Comcon, c'est le comité de concertation pour l'éducation. À ce titre, nous participons en réunion avec le ministre de l'Éducation, avec les partenaires. Et comme nous avons le courage naturel de pouvoir dire en face ce que nous pensons, parce que nous pensons être libres, nous croyons être des personnes libres, et nous les disons souvent aux autorités qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais que vous n'arrivez pas à faire. On se demande pourquoi. Le pays est en péril, l'éducation, et j'ai travaillé avec le ministère du genre. Nous sommes le bras séculier du ministère du genre. Et quand vous regardez le ministère du genre, il a quel budget lui-même pour le développement de la femme, pour la
fille.
C'est pour tout ça, ce sont des problèmes.
Didier Bitaki, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Goma, au nord d'Ivo.
Évariste Biendo Bin Saloum, ville de Goma, province du nord d'Ivo. J'ai lu le travail abattu par la MONUSCO dans l'extraction des enfants soldats des groupes armés. Toutefois, pour mettre fin à ce phénomène, je pense qu'il faudra neutraliser totalement les groupes armés, car dès que ces derniers existent, les enfants en seront toujours victimes.
Didier Bitaki, oui, ça nous permet de débattre sur la deuxième question. Comment faire, n'est-ce pas, pour mettre fin à ces phénomènes d'enfants soldats en RDC?
Je suis d'abord tout à fait d'accord avec l'auditeur qui venait d'évoquer cette question de neutralisation des groupes armés. Mais bon, l'existence de ces groupes armés relève de plusieurs dimensions que nous ne pouvons pas détailler. Peut-être à la prochaine, on en parlera. Mais pour la question précise des enfants soldats, je pense qu'à ce niveau, il était question plutôt de redynamiser le DDRRR. Parce que si vous vous rappelez bien, après la disparition du M23, disons l'échec du M23, qui était le principal groupe qui misait aux intérêts nationaux, les autres groupes qui étaient dans la brousse et qui se disaient vouloir défendre peut-être certaines portions de terre où ils étaient, ont immédiatement annoncé leur volonté de vouloir rendre les armes. Et des échantillons sont arrivés à différents endroits. Mais écoutez, si vous faites alors l'analyse à partir de ce moment-là où les M23 disparaissaient jusqu'à ce jour, combien d'éléments ont été amenés dans des centres de regroupement, dans des centres de resocialisation, dans les centres de démobilisation? Combien d'armes ont été récupérées? Où sont les enfants qui ont été extraits des groupes qui se sont rendus? C'est ça la question qui se pose globalement ici. Parce que ces enfants-là ont été laissés pour compte, abandonnés à leur triste sort, et du coup, se sont encore retrouvés dans la brousse pour s'associer au même groupe qui les utilisait auparavant. Autant que les combattants également fuyaient les centres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de structures appropriées, il n'y avait aucun programme cohérent qu'on devait suivre selon que les standards internationaux l'exigent. On a vu le cas en Colombie, on a vu le cas dans d'autres pays en guerre, notamment en Yougoslavie et en Serbie. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas appliquer cela? La MONUSCO, les autres ONG se sont impliquées, mais parce que quelque part, il n'y avait pas de volonté. Bon, on est tombé dans la bureaucratie à Kinshasa, pendant que la question des groupes armés, surtout des DDR, exige une présence permanente sur le terrain pour gérer, recevoir, désarmer, orienter, éduquer, instruire et resocialiser ces gens. Aujourd'hui, ce programme n'existe presque plus. Bon, finalement, on en parle, c'est dans les médias. Mais comment est-ce qu'on va sauver les vies de ces jeunes qui encore sont auprès des groupes armés, pendant qu'il n'y a nulle part, il n'y a aucun endroit où on pourra les amener, il n'y a aucun programme qui pourra les prendre en charge? C'est tout ça la question. Donc ce n'est ni de la volonté de ceux qui détiennent ces enfants aujourd'hui qui fait que ces enfants ne sortent, mais plutôt de celui qui doit prendre une décision afin de les amener là où ils doivent vivre. Donc c'est une question de sécurité publique, une question de volonté, une question de politique aussi. Malheureusement, lorsqu'on en évoque, on a tendance à croire que peut-être on a besoin d'un poste ou peut-être d'un calcul politique pour nuire à tel ou tel autre intérêt. C'est ça ce qui gangrène la société congolaise aujourd'hui pour que des questions prioritaires telles que celles relevant des groupes armés et des enfants soldats ne soient prises en compte. Donc pour moi, je pense qu'il faut encore un peu plus de courage, de détermination et cette fois-ci de cohérence dans la mise en œuvre des programmes qui doivent nous aider à sortir nos enfants des groupes armés. Voilà.
Maître Juvenal Mounoubo Moubi, que faut-il pour mettre fin à ce phénomène d'enfants soldats en RDC? Vous avez suivi Didier Bitaki qui estime qu'il faut redynamiser le DDR.
Oui,
comme vous l'avez dit aussi.
Comme je l'ai dit, il faut voir dans les DDR3, parce qu'il faut partir de l'actualité. Actuellement, il y a eu un DDR1, il y a eu un DDR2, maintenant c'est le DDR3. Je dois vous dire que le bilan du DDR 1 et 2, pour moi, c'est pas un bilan satisfaisant. C'est vrai, il y a des chiffres qu'on évoque, mais dans le détail, comme l'a dit Didier Bitaki, on ne sait toujours pas nous dire X enfants sortis des groupes armés, il est devenu qui. C'est vrai, il y a quelques rares exemples de succès, les success stories. Il y en a. Hein, il y a des enfants que moi je connais, démobilisés, qui sont devenus enseignants, encadreurs. Il y a même un enfant qui a écrit un livre. Mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, d'une manière globale, il y a beaucoup d'enfants qui ont rejoint les groupes armés également. Donc, il faut un DDR3 avec un bon volet de réinsertion, avec des programmes concrets. Il faut quitter les principes, parce que les principes ont déjà été annoncés dans les cadres opérationnels pour enfants. Et maintenant, ici, il faut un programme avec des projets, des offres, des opportunités de réinsertion, suivant les opportunités du milieu. Une activité au Nord Kivu n'est pas la même chose qu'une activité au Nord Katanga, par exemple. Il faut voir le milieu, une activité de réinsertion qui cadre avec les opportunités du milieu. Mais aussi, chaque fois qu'il y a reddition, actuellement, l'idée c'est de voir dans quelle mesure mettre fin au groupe armé, mais chaque fois qu'il y aura reddition, il ne faut pas traîner, il faut orienter ces enfants dans les structures de réinsertion communautaires. Il faut un bon suivi des réinsertions, il faut une forte appropriation du programme par la communauté, parce qu'il faut se dire la vérité, un jour il n'y aura pas le financement des bailleurs de fonds, il faudrait que la communauté puisse prendre les relais. C'est important. Il faut résoudre des problèmes de prise en charge psychosociale, parce qu'il y a des enfants réunifiés à leur famille avec des graves problèmes de traumatisme. Il faut résoudre le problème des sorties des filles, parce que plusieurs filles sont encore victimes d'esclavage sexuel, cuisinières, femmes des seigneurs de guerre.
Merci. Joseph Godet Kayembe, que faut-il pour mettre fin à ce phénomène des groupes armés avec des enfants soldats en RDC? Vous avez suivi Didier Butaki qui a parlé de redynamiser le DDR et Maître Juvenal Mounoubo qui a proposé beaucoup d'éléments, notamment le DDR 3 avec un volet de réinsertion.
Oui, tout en étant parfaitement d'accord avec Maître Juvenal lorsqu'il dit qu'il faut créer des postes d'opportunités de réinsertion, des programmes concrets, des projets concrets pour les enfants et qui vont être démobilisés. Et je pense aussi que pour mettre fin à ces phénomènes, à tous ces problèmes, il faut que l'État congolais, tout en m'adressant au Parlement, qui doit faire l'éducation de nos enfants une priorité. Une priorité parce que lorsque l'enfant n'a pas l'avenir, lorsqu'il se dit que je n'ai pas étudié, je n'ai pas d'avenir, cet enfant, il est exposé à toute action. Et voilà pourquoi, pour notre part, nous disons qu'en dehors du fait qu'on peut mettre tous ces programmes qui vont pouvoir permettre à tous les enfants de mobiliser, de retrouver la vie, il faut aussi que les gouvernements et les parlements prennent des mesures concrètes pour que la gratuité de l'éducation soit de mise.
Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Votre conclusion, M. Joseph Godet-Kayembe?
Ma conclusion, c'est la responsabilisation de nos autorités, tant gouvernementales que parlementaires. Et ils doivent savoir que l'avenir de la République dépend de ce que nous devons faire de la jeunesse. Si nous avons,
il faut promouvoir l'éducation.
Il faut promouvoir davantage l'éducation, parce que même d'ailleurs, comme vous le savez, tous les pays qui se sont dit émergents aujourd'hui ont affecté suffisamment d'argent dans l'éducation. Mais chez nous, ça devient les slogans, comme d'habitude, mais je crois qu'il y a lieu que toutes ces personnes puissent prendre des dispositions pour assurer l'avenir de nos enfants.
Merci, M. Didier Butaki. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que pour mettre fin d'abord aux groupes armés, il faut l'imposition du pouvoir public, donc la restauration totale de l'autorité publique sur toute l'étendue du territoire national. La question des enfants soldats, je pense qu'il faut appliquer la Constitution à son article 43 qui parle de la gratuité de l'enseignement élémentaire. Et en troisième lieu, il faut que le pouvoir public prenne ses responsabilités vis-à-vis de la question de protection des enfants et des personnes vulnérables. Je pense qu'en appliquant ces trois mesures, on ne vivra plus ces
Merci.
Phénomènes enfants soldats ou groupes armés.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que je crois, en dépit du fait que le défi est énorme, je reste optimiste, mais je crois que le seul optimisme ne suffit pas. Les décideurs politiques ont une grande responsabilité de montrer une réelle volonté politique, d'être concrets dans les planifications, et de voir dans quelle mesure le bénéfice mobilisé peut atteindre les vrais bénéficiaires au lieu de se perdre dans la corruption, la mégestion.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique, à Alain Irung, Kéline Kouté qui était à la réalisation sous la supervision d'Eben Kabamba, à la présentation Guy Maté. Merci et à la prochaine.